Bollet sur le sujet qu'il imagine la solution qui va rendre son entreprise rentable après des années de galère. Un film d'animation long métrage. Personne n'a encore jamais vu ça. Les doutes sont énormes. Ils sont nombreux à tenter de le décourager. Les frais sont abyssaux. Mais l'idée est pour le moins avant-gardiste. Même sa femme se pose des questions. Qui pourrait bien rester 90 minutes devant des dessins qui bougent et qui parlent? Et puis, c'est tout l'équilibre familial qui est mis en péril. La maison est hypothéquée, son entreprise avec. Walt Disney voit grand comme toujours. L'audace, la besogne encore. Il accepte de jouer son avenir sur ses projets pour les voir réussir sans détour. Et sans mesure aucune, il se donne l'objectif de réaliser l'impensable. Un film d'animation sur Blanche-Neige et les Sept Nains. Oh, le travail est colossal. Chaque posture, chaque regard différent, chaque expression des personnages nécessite un nouveau dessin. Ils sont près de 700 à bosser sur ce projet absolument phénoménal. Entre 1935 et l'été 1937, la production du film d'animation coûte un argent faramineux et Walt doit même intervenir auprès de la Bank of America. La survie de son entreprise et la sienne dépendent entièrement de la réussite de ce projet. Le 21 décembre 1937 à Hollywood, le jugement du public est sans appel. Standing ovation. Le premier long-métrage de Disney est un succès qui caracole en tête de tous les classements de l'avant-guerre. Il rapporte à la firme la bagatelle de 100 millions de dollars d'aujourd'hui. Alors effectivement, Walt sauve les meubles et mieux, il permet à l'équipe de se lancer dans de nouveaux projets. C'est là que Walt Disney devient une star. Persuadé que l'adaptation des grands contes littéraires pour enfants est la bonne ligne à suivre. Il s'attelle à la réalisation de deux nouveaux films. Pinocchio d'un côté, Fantasia de l'autre. Le risque pris, là encore, est immense. Pinocchio coûte deux fois plus cher à produire que Blanche-Neige, alors que ce dernier avait déjà un budget considérable. Les années 20 et 30 en Europe sont une poudrière qui voit émerger un mouvement politique nouveau, le fascisme. En Italie d'abord, puis en Allemagne, les figures autoritaires comme Mussolini ou Hitler s'imposent en opposition au communisme de Lénine puis Staline. Walt Disney est un patriote. Il n'hésite pas à faire falsifier son passeport pour parvenir à s'engager lorsque les États-Unis entrent au cœur du bourbier de la Première Guerre mondiale. Il ne sera déployé qu'après l'armistice du 11 novembre 1918, dans les effectifs de la Croix-Rouge, mais tout de même. Pour l'anecdote, il passe quelques temps lors de cette période à Marne-la-Vallée, un endroit que les amoureux du parc européen d'attraction de la souris aux grandes oreilles connaissent certainement par cœur. À la fin de l'année 1941, au beau milieu d'une guerre qui n'en finit plus de se répercuter sur toute la surface du globe. L'Allemagne nazie a vaincu la France. Le Japon, son allié, s'est attaqué à l'oncle Sam en lançant ses avions sur la base de Pearl Harbor. Cette fois, la guerre est totale, impitoyable. Dès que son pays bascule dans la guerre, Disney se range sous la bannière de l'Union nationale face à cet ennemi qu'il a mis bien du temps à condamner. Mais soit. L'effort de guerre est pour tout le monde. Et de son côté, Disney compte bien réaliser des spots publicitaires et autres courts-métrages afin de soutenir le pays dans son combat. Ses affaires vont plutôt mal, oui. Et vous allez me dire encore, Walt a vu trop grand avec Pinocchio et surtout Fantasia. Si l'histoire de la marionnette au nez qui pousse lorsqu'elle ment est un grand succès, c'est son coût de production initiale qui fait pencher la balance dans le mauvais sens. Mais c'est surtout pour Fantasia que les choses se gâtent. Pourtant, encore une fois, Walt cherche l'innovation. Pour la première fois, l'image est mise au service de la musique, comme un ancêtre des clips musicaux. Seulement, en 1940, ça ne prend pas. Pas du tout même. Lors de la projection initiale, les trois quarts de la salle ont déserté au bout de 20 minutes. Cuisante déroute, qui aura au moins le mérite de faire redescendre le gestionnaire sur Terre, du moins si ses employés lui permettent. Voilà plusieurs semaines que les salariés de la firme sont en grève partielle ou totale, camouflée terrible pour Walt. En effet, derrière la jolie moustache et le grand sourire se cache un bourreau de travail, si impitoyable avec ses employés qu'il les pousse à ce mouvement de grève aussi soudain qu'inattendu pour lui. En cause, la politique salariale et le bien-être des travailleurs. Un millier de personnes battent le pavé et font même réagir le gouvernement américain. Au milieu de ce marasme qu'il ne peut comprendre, Walt Disney tombe dans une profonde dépression qui le cloue sur place. Cette débauche d'énergie, cette audace et ces sacrifices, il estime cela normal. Son entreprise, après tout, n'est-elle pas une grande famille ? Visiblement, ses subordonnés ne sont pas du même avis. Et puis, cette grève tombe très mal. Trois énormes projets sont en production. Alice au Pays des Merveilles, Cendrillon et Peter Pan. Oui, rien que ça. Ces considérations salariales, de bien-être, d'heure fixe, nous paraissent évidemment normales et justes aujourd'hui. Mais au cœur du second conflit mondial, les choses ne sont pas si évidentes. Les mouvements syndicalistes vivent leur balbutiement au pays de l'oncle Sam. Et cela, Walt Disney le refuse chez lui. Il y a une chose qu'il déteste au plus haut point, hormis les grèves et les revendications, ce sont les communistes. Disney est loin d'être un homme volatile en politique. Sa prise de position, lorsque les États-Unis entrent en guerre, pourrait le faire passer pour un opportuniste. C'est pas le cas du tout. Son mal-être lors des grèves de ses employés en 1941 et 1942, son opposition extrême au communisme et aux syndicats, tous ces éléments vont lui permettre de vivre, à la sortie du conflit, un retour en grâce qui sera bienvenu pour lui et son entreprise. En effet, la décennie suivant la fin de la guerre est celle de tous les records. Les films qu'il sort marchent du tonnerre. Surtout, Disney réussit sa mue. Les résultats, toujours aléatoires, du cinéma font naître chez lui un désir de diversifier ses activités. En juillet 1955, la firme cinématographique va devenir véritablement un empire médiatique au poids considérable. Pourquoi ? Eh bien, Walt a eu un nouvel éclair de génie, celui d'ouvrir un parc d'attractions. C'est à la fin des années 1940 que son idée d'un parc de loisirs est née. Il l'imagina d'abord au pied de ses studios, afin de permettre à ses employés d'emmener leur famille au travail. Anaheim, en Californie, est choisi et le parc est inauguré en 1955. Depuis lors sont sortis de terre le gigantesque parc à Orlando, en Floride, Disneyland Paris et un autre complexe du même type à Hong Kong. Le succès est planétaire, remarquable. Enfin, et après de nombreux dangers qu'il a pour la plupart initiés, le chef d'entreprise a réussi son pari, celui de stabiliser la santé économique de son empire. Lorsque son premier parc ouvre en Californie, Walt Disney y reçoit le vice-président Richard Nixon. Durant la même mandature, celle du président Eisenhower, on raconte que le père de Mickey refusa, malgré les pressions, de recevoir dans ses installations un certain Nikita Khrouchtchev, leader de l'URSS communiste. Quand je vous dis que Picsou déteste les extrémistes, c'est d'ailleurs ce même canard que l'on voit dans un spot publicitaire durant la guerre jeter une tomate à la tête d'Adolf Hitler. Une manière comme une autre de montrer ses nouvelles dispositions. Quoi qu'il en soit, en 1955, Nixon tombe véritablement en pâmoison devant le parc. Il y revient 4 ans plus tard, cette fois avec sa famille. L'anecdote est connue. À bord du train monorail, conçu par Walt lui-même à l'ouverture de Disneyland, train que Nixon inaugure, les fillettes du vice-président sont absolument ravies. sachant qu'à la fin du tour, elles en demandent un nouveau. Le véhicule repart, mais on frôle l'incident diplomatique. Les membres des services secrets en charge de la protection de Nixon restent sur le quai. Dans un contexte de guerre froide où peut se produire une tentative d'assassinat à n'importe quel moment, la tension est palpable. Mais Nixon ne semble pas s'en inquiéter. En descendant de son ultime tour, il en plaisante même face caméra avec ses anges gardiens qui, eux, ne rigolent pas du tout. Nixon reviendra une troisième fois à Disneyland, cette fois en Floride, en 1973. Il est alors président. Le scandale du Watergate vient d'éclater. Voulant s'offrir un peu de repos face à l'opprobre, c'est sa fin de règne qui s'y est enclenchée. Ces anecdotes n'en sont que quelques-unes parmi d'autres lorsqu'on évoque la personnalité si particulière de Walt Disney et sa vie unique en son genre. C'est d'ailleurs ce qui fait le charme de sa destinée légendaire, l'impossibilité, ou la difficulté du moins, d'en démêler le vrai du faux. De Disney, évidemment, chacun et chacune de nous pense à un film qui nous a marqué. C'est toute la magie de cet univers si étendu et particulier. Chaque génération a ses classiques préférés depuis les années 1930. Il y a tout de même de quoi être époustouflé face à tant de constance et de réussite. On notera un fil rouge entre tous ces films. Si je vous parle de Bambi, de Cendrillon, même de Bernard et Bianca, y voyez-vous un point commun ? Non ? Non, allez, tentez un petit peu de vous creuser les méninges. Dans tous ces films d'animation, les figures maternelles sont soit mortes, soit absentes. Et cela n'est pas sans rappeler l'un des traumatismes les plus vifs du créateur de la firme, celui d'avoir perdu sa mère. C'est même l'histoire d'une culpabilité très morbide. Peu avant le début des hostilités de la Seconde Guerre mondiale, les frères Disney ont acheté une maison à leurs parents vieillissants. Mais peu de temps après leur arrivée dans cet endroit, une fuite de gaz a nécessité une opération de maintenance. Débordé, Walt délègue les travaux à l'un de ses employés, sans prendre le soin de se déplacer lui-même. L'homme ne réalise pas l'opération correctement et ce qui devait arriver arrive. Le branchement très approximatif conduit à un empoisonnement au monoxyde de carbone. Son père en est quitte pour une belle frayeur, mais sa mère, elle, n'en réchappera pas. Durant toute sa vie, Walt a gardé au fond de son cœur la plaie béante de cette terrible culpabilité, celle de se sentir en partie responsable de la mort de sa mère. La prise en compte de cette souffrance est l'un des aspects les plus intéressants lorsqu'on étudie la personnalité de Walt Disney. Pourtant, il arrive encore aujourd'hui que la firme Disney élude certaines facettes de la vie de son créateur pour le protéger des critiques, certainement. Pour éviter des polémiques, c'est aussi évident. C'est tout le problème des légendes. On raconte bien souvent n'importe quoi à leur sujet. L'entreprise Disney, aujourd'hui plus que jamais, veut garder sur la communication autour de son créateur une mainmise absolue. Cela passe par de gros efforts pour redorer son blason. Dans le film sorti en 2009, Dans l'ombre de Marie, pour ne citer que lui, Tom Hanks incarne Walt Disney. Ce choix ne trompe personne. Le fondateur de la firme est, à dessein, joué par une figure populaire. Et très clairement, le ton est donné. Le film est construit autour des côtés bon père de famille du créateur d'Oswald le Lapin. D'aucuns disent d'ailleurs que les dirigeants de l'Empire ont mis leur nez dans le scénario du film, longtemps avant sa sortie. Cette volonté de contrôle ne s'inscrit cependant pas seulement dans l'optique de redorer la légende de Walt Disney. Cela participe aussi à éradiquer les multiples âneries qui peuvent encore être racontées sur le compte du créateur et celui de la firme. Je vous en dresse ici un petit florilège. Disney serait une entreprise disciple du satanisme, faisant notamment dans Le Roi Lion l'apologie du vaudou. La tête momifiée de Walt aurait été, selon d'autres rumeurs, pour le moins farfelues, enfouie sous l'attraction de Pirates des Caraïbes à Disneyland. Et je ne vous parle pas de celles et ceux qui sont persuadés d'avoir vu le fantôme du créateur dans le château de Cendrillon. Walt Disney, c'est aussi une affaire de chiffres. 22, comme le nombre d'Oscars qu'il a pu glaner au fil des ans. 19, comme le nombre d'années où il a lui-même été la voix officielle de Mickey Mouse. Ou bien encore 17, comme le nombre d'années dont il a eu besoin pour obtenir les droits du célèbre Mary Poppins, l'un de ses chefs-d'œuvre des années 60. Quand Walt voulait quelque chose, Disney se chargeait du reste. Quoi qu'il en soit, la personnalité de notre héros du jour est aussi fantasque que complexe. Tout découle de l'enfance, s'accordent à dire certains psychanalystes. Il se pourrait bien que ce soit aussi le cas pour Walt Disney. Ses origines n'y sont pas étrangères. Ses parents étaient fermiers dans le Missouri. Ils y ont élevé de nombreux animaux durant les premières années de la vie du jeune Walt. Leur petit garçon, comme un jeu, s'en est évidemment inspiré pour dessiner. Très rapidement, il s'est mis à recouvrir les murs de la maison de figures animales, sous les encouragements bienveillants de son père. C'est d'ailleurs aussi en cela que son histoire personnelle est des plus inspirantes. Saviez-vous d'ailleurs que Walt Disney, issu de ce milieu modeste, était l'un de ces adolescents qui passent plus de temps au boulot que sur les bancs de l'école? Jusqu'à ses 13 ans, chaque matin, son frère Roy et lui se levaient à 3h30 afin d'aller livrer des journaux. Mais c'est pas tout. Il s'est ensuite spécialisé dans la vente en itinérance sur une ligne de chemin de fer. Le dessin, il ne le pratiquait alors que le samedi matin, au Chicago Art Institute. Sa bonne étoile a fait le reste. Mais comment ne pas louer cette abnégation incroyable? D'ailleurs, une fois devenu superstar, Walt n'a pas oublié ses années de vache maigre. Afin de rendre hommage au village et aux petites villes de son pays qu'il a pu traverser sur les lignes de chemin de fer, une Main Street a vu le jour dans tous ses parcs. D'ailleurs, ce n'est pas le seul hommage à sa jeunesse. La présence d'un train dans chacun des parcs Disneyland n'est certainement pas le fruit du hasard.